d'abord le journal, les grands titres de ce 19 mars. L'attaque à l'aéroport d'Orly, un acte terroriste selon les autorités françaises. Le gouvernement fédéral en Australie se prépare pour présenter le projet de loi Omnibus. Chuck Berry, figure du rock'n'roll, est mort hier à l'âge de 90 ans. L'attaque à l'aéroport d'Orly hier, la piste terroriste se confirme selon les autorités. François Bernard pour Radio France Internationale revient sur le déroulement des faits d'hier matin.
Un homme connu des services de renseignement a agressé une patrouille de militaires à l'aéroport d'Orly, au sud de Paris, avant d'être abattu. L'attaque a semé la panique au terminal sud d'Orly, entraînant l'évacuation de 3000 passagers, la mobilisation d'importantes forces de sécurité et l'interruption du trafic. Tout a commencé vers 6h55. Cet homme a tiré sur 3 policiers lors d'un contrôle routier à Garges-lès-Gonesse, au nord de Paris. Il a blessé légèrement l'un d'entre eux à la tête avec un pistolet à grenaille. Après avoir pris la fuite, il est repéré dans la banlieue sud de Paris où il fait irruption dans un bar, profère des menaces et vole son véhicule à une femme. Il se rend ensuite à l'aéroport d'Orly, à une dizaine de kilomètres de là. Vers 8h30, il est au premier étage du hall 1 d'Orly Sud. Il essaye d'agresser une patrouille pour s'emparer de l'arme à feu de l'une des militaires de la patrouille. L'homme parvient finalement à se saisir de son fusil FAMAS. C'est en se relevant de cette lutte pour récupérer le fusil que l'homme a été abattu. Les 2 collègues de la militaire ont ouvert le feu pour protéger la militaire donc et protéger le public.
François Bernard pour RFI. On écoute maintenant le procureur de la République de Paris, François Molins.
Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'en 1h30, il y a une sorte de fuite en avant avec une accélération dans un processus de plus en plus destructeur qui va visiblement crescendo à travers du processus de fuite à la suite du contrôle de police, les tirs dans le bar, le vol de la voiture, et qui voit arriver quelqu'un avec des intentions qui sont criminelles de façon très objective, puisqu'il est armé, il a un bidon, il a des hydrocarbures, je sais bien qu'il a un paquet de cigarettes, mais il a aussi un briquet. Donc on peut effectivement penser que, vu la violence qui est démontrée dans les images, lorsqu'on le voit effectivement attraper cette militaire, on sent qu'il est décidé à aller jusqu'au bout. Si l'on en croit les paroles qu'il tient aux militaires, tout laisse à penser qu'il cherche à s'emparer du FAMAS pour qu'il y ait des morts et puis tirer sur des gens. C'est en tout cas, en première analyse, ce qu'on peut, je pense, déduire du comportement de cet individu.
Voilà le procureur de la République de Paris, François Molins. En Australie maintenant, avec un rapport du gouvernement fédéral qui demande une action urgente pour réduire les frais de garde d'enfants pour les familles. Le coût a augmenté 5 fois le taux d'inflation en 12 mois. Le gouvernement veut présenter un projet de loi omnibus avec des coupes budgétaires, des réductions du service social pour compenser les changements de subventions aux services de garde d'enfants. Le ministre de l'Éducation sur l'ABC demande aux sénateurs indépendants et le Labour de soutenir le projet de loi au Sénat. Simon Birmingham.
It's essential that the increased investment, around $1.6 billion of increased investment in childcare support that we're proposing, is actually fully funded. And so we want to see savings passed through. We'll work hard to make sure that happens. And when it happens, we'll then have a childcare model that will ensure there's restraint on fee growth, more help for low-income families, no limit of support that ensures families cut back their working hours.
Voilà le ministre Simon Birmingham. La porte-parole de l'opposition fédérale, Kate Ellis, a déclaré sur l'ABC que le Labour soutiendrait le projet de loi s'il n'était pas lié aux coupes budgétaires.
We don't believe that you need to hit 1.6 million Australian families with cool cuts in order to deliver on childcare reforms which have been promised for years. The government has many options. This is about priorities.
Kate Ellis, porte-parole du Labour. L'expansion du plan hydroélectrique Snowy Hydro pour contrer la crise énergétique en Australie et le ministre des Ressources, Matt Canavan, est confiant que ce projet va aider à réduire les prix de l'énergie et va protéger aussi les emplois.
These plans will help bring down prices at particularly peak times. They will help protect jobs and ensure there's not as many load shedding events as we saw over summer that put at risk aluminium jobs at Tomago. These plans are a real solution to the real problems facing our energy situation, and good on for the Prime Minister for grabbing it. It is a complicated situation with three different shareholders, the New South Wales and Victorian governments as well, but the Prime Minister's made it clear that he wants to act, and if the other states won't follow, he'll lead the charge.
Voilà le ministre des Ressources, et je rappelle que le Premier ministre Malcolm Turnbull a annoncé en début de semaine l'investissement de 2 milliards de dollars qui permettrait d'augmenter la capacité d'approvisionnement en électricité de Snowy Hydro de 50%. Le vice-premier ministre Barnaby Joyce réitère son soutien pour la proposition du gouvernement de l'Australie méridionale de payer des redevances aux agriculteurs qui permettent à leurs terres d'être utilisées pour l'exploration de gaz. Il aimerait voir les propriétaires mieux compensés pour l'extraction de gaz. Barnaby Joyce est sur l'ABC.
If we get a fair payment back to the farmer, you're going to completely change the dynamics of the debate, because therefore the community becomes economic beneficiaries of that wealth. As long as it's not on prime agricultural land, as long as it's not destroying an aquifer, rule those two out. But if what Jay Weatherall suggested, 10% return back to the farmer would have a huge economic boost to those rural communities, and those farmers quite obviously would be a huge beneficiary of it. And I think that's a great outcome.
Voilà, c'était Barnaby Joyce. En Syrie maintenant, à Homs, évacuation de civils et de 15 000 combattants rebelles après un accord russo-syrien. Les personnes évacuées seront transférées au nord-est de Aleppo sous la supervision des forces russes et des forces syriennes. Et puis en Irak, plusieurs milliers de personnes ont quitté Mossoul après une trêve dans les combats dans la vieille ville. La bataille dure depuis 5 mois dans ce dernier bastion de Daesh. Les ministres des Finances du G20 se sont réunis à Baden-Baden en Allemagne, mais aucun communiqué sur le libre-échange et le climat. On écoute le ministre allemand des Finances, Wolfgang Schäuble.
Wenn einer nicht zustimmt, dann stimmt halt nicht zu. Aber deswegen.
If someone does not want to agree, then he won't do it. But I believe this is an outcome that allows the process to continue. I also believe that the cooperation between the governors of the central banks and the finance ministers has been strengthened rather than weakened over the past 2 days.
Le président des États-Unis, Donald Trump, a déclaré à travers Twitter que l'Allemagne doit d'énormes sommes d'argent à l'OTAN et aux États-Unis pour la défense de son territoire. Cette annonce faite après la rencontre entre Donald Trump avec Angela Merkel à la Maison-Blanche. Précision de Yelena Tomic pour RFI.
Dans un premier tweet à l'issue de son entrevue avec Angela Merkel, Donald Trump a vanté l'excellente rencontre avec la chancelière allemande, sans manquer de tacler au passage les médias qu'il a accusés de diffuser de fausses informations. De nombreux observateurs avaient noté une certaine gêne et tension entre les deux dirigeants lors de la conférence de presse commune hier à la Maison Blanche. Ce samedi, le président américain change radicalement de ton et accuse l'Allemagne de devoir d'énormes sommes d'argent à l'OTAN et aux États-Unis qui, je cite, lui fournissent une défense très puissante et très coûteuse. Ce reproche de Trump n'est pas nouveau. Il en avait fait son slogan de campagne en accusant les membres de l'Alliance de faire porter aux États-Unis le plus grand fardeau financier. Dans son tweet, il s'en prend cette fois-ci directement à l'Allemagne. Angela Merkel s'est pourtant engagée devant son hôte à augmenter sa part du budget militaire de l'Alliance en passant de 1,2 à 2% du PIB, une promesse qui n'a visiblement pas convaincu Donald Trump.
Voilà, c'était Yelena Tomic. Inondation au Pérou avec des milliers de personnes sans abri. C'est le nord du pays qui est le plus touché. L'état d'urgence est en vigueur pour près de la moitié du pays. Selon les autorités, plus de 60 personnes sont mortes. Il y a eu 10 fois plus de pluie que prévu pour la saison. En Équateur, 3 Australiens détenus soupçonnés de trafic de drogue, de cocaïne. 2 hommes et une femme de Melbourne ont été arrêtés en janvier dernier avec près de 10 kilos de cocaïne. Et s'y trouvaient coupables, ils encourent une peine de prison entre 10 et 13 ans. En France, à nouveau, avec la campagne des présidentielles de 2017, 11 candidats disputeront le premier tour dans la course à l'Élysée. Les précisions de Véronique Rigollet pour RFI.
11 candidats sur la ligne de départ, 2 femmes, 9 hommes, dont 3 qui se sont qualifiés in extremis. Philippe Poutou, le candidat du NPA, le nouveau parti anticapitaliste, ainsi que le centriste Jean Lassalle et le gaulliste de la gauche, comme il aime à se définir, Jacques Cheminade. Ils rejoignent ainsi les 8 qui étaient déjà assurés de leur qualification, François Fillon, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon, Nathalie Arthaud et François Asselineau. Voilà pour les qualifiés. En revanche, la centriste Ramayad et les gaullistes Michel Alliot-Marie et Henri Guénaud ne feront pas partie de la course à l'Élysée. Cette course est désormais officiellement lancée. Reste 36 jours exactement de campagne avant le premier tour le 23 avril prochain. En retard dans les sondages, Jean-Luc Mélenchon entend frapper fort dès cet après-midi avec sa grande marche des Insoumis à Paris. Benoît Hamon lui répondra demain lors d'un meeting géant à Paris également. Et puis, premier moment fort de cette bataille qui vient de commencer, le débat télévisé lundi soir qui réunira 5 des 11 candidats, Le Pen, Macron, Fillon, Mélenchon et Hamon, un débat inédit dans une campagne présidentielle, un face-à-face des prétendants qui s'annonce d'ores et déjà très musclé.
Véronique Rigolet pour RFI. L'icône du rock and roll Chuck Berry est mort à l'âge de 90 ans à St. Charles dans le Missouri hier samedi. Écoutez l'hommage de RFI par Cécile Pellerin.
C'est une légende du rock'n'roll qui a fait danser plusieurs générations et qui venait de sortir son dernier album sobrement intitulé Chuck. Chuck Berry est décédé à l'âge de 90 ans. Il a inspiré les Beatles, Keith Richards, des Rolling Stones est un fan. Iron Maiden, The Kinks, Jimi Hendrix ont repris ses œuvres. Et l'un de ses titres les plus célèbres aux riffs de guitare énergique et emblématique, c'est bien sûr Johnny B. Goode qui est sorti en 1958.
Voilà, Chuck Berry qui disparaît à l'âge de 90 ans. Coup d'œil météo pour ce dimanche en Australie, Perth maximal de 26 degrés, Adélaïde 34, Melbourne 32, Hobart 29, Canberra 25, Sydney 26, Brisbane 30, Cairns 31, Darwin 32 et à Alice Springs maximal de 37 degrés. Un rappel des grands titres de ce 19 mars, l'attaque à l'aéroport d'Orly, un acte terroriste selon les autorités françaises. Le gouvernement fédéral en Australie se prépare pour présenter le projet de loi Omnibus. Et comme je le disais, Chuck Berry, figure du rock'n'roll, est mort hier à l'âge de 90 ans. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench